suis de la même manière, je me suis bien éclatée assez rapidement. Alors on pourrait dire que ça, c'est une partie qui est atypique. Enfin, c'est que si je m'ennuie facilement, donc je cherche ce que je peux faire en plus. Et donc assez rapidement, donc là on était début 2009, Facebook venait de sortir, mais tu vois, on était dans les prémices en France. Et donc au-delà de mon job de chef de projet, j'ai dit à mon boss, mais là il faudrait qu'on se crée une page Facebook, faut qu'on aille sur Internet, c'est là qu'il faut qu'on soit. Donc je me suis formée toute seule sur. À l'époque, tu pouvais créer ta. Je me souviens, tu pouvais créer ta page Facebook. Avec un langage, donc tu sais, quand tu codes, tu as le langage HTML classique. Et là, ils avaient
D'accord,
créé
c'est plus.
ils avaient créé un langage FBML. Et donc, moi, avec ça, j'ai codé notre propre page Facebook. Et puis ensuite, je me suis formée sur le référencement naturel payant pour qu'on soit présent sur. Enfin, voilà, dans. Ce qu'on appelle le marketing digital, en fait. Et donc voilà. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai pris du coup une casquette de responsable marketing com. Et ça s'est hyper bien passé. Et je suis montée. Et assez rapidement, en fait, bref, il y a eu des changements de direction. Et le groupe, en fait, c'est un groupe familial avec plusieurs entités. Et mon boss a pris la direction de tout le groupe, puisque c'était une entreprise familiale et son père partait à la retraite. Donc lui a repris le chapeau et il avait besoin de quelqu'un pour diriger l'agence partie événementielle et tourisme d'affaires. Et donc j'ai pris la direction de l'agence à 28 ans. Et donc là, donc on avait bien grandi et ce qui a été un parcours un peu difficile parce que en fait j'avais commencé en stage et donc là au bout de j'avais commencé 3 4 ans avant et du jour au lendemain plus ou moins je me suis retrouvée à la direction de l'entreprise avec à l'intérieur des équipes qui étaient mes collègues parfois mes maîtres de stage et ce qui est humainement pas très évident à accepter. Déjà, le changement de manière générale en entreprise, c'est pas facile. Et voilà, là, j'ai eu ce passage RH assez compliqué de prendre ma position de leadership alors que j'avais des personnes qui avaient 45 ans, que moi j'en avais 28 et que. Et alors, c'est pas la manière dont je le voyais, mais si je caricature, je devenais la bosse et il fallait que je trouve ma légitimité.
D'accord.
Voilà. Donc ça a été une belle épreuve. Si tu veux que je raconte des passages et je trouve que ça vaut le coup parce que avec un peu plus de maturité maintenant, je prends du recul et je me dis que j'assume ce côté-là, mais je me souviendrai toujours de. Donc ça s'est pas hyper bien passé avec certaines personnes. Et dont une qui m'a dit, mais en fait, Delphine, de toute façon, c'est sûr, tu n'y arriveras jamais à diriger. Tu es trop sensible, tu es trop émotive. Ce qui est vrai, c'est que j'ai une empathie parfois poussée à l'extrême. J'ai une très grande sensibilité, émotivité, peu importe le terme que tu mets derrière. Et sur le coup, je pense que la jeunesse fait aussi que. Tu te prends juste des claques. Enfin, moi, ça a été vraiment un moment de punching ball. Avec du recul aujourd'hui, en fait, je pense que c'est ce qui a fait ma force. Et c'est ce qui fait ma force. C'est cette capacité à. Je pense finalement que c'est, tu vois, ces fameux soft skills dont on parle beaucoup. Et l'empathie en fait partie, en particulier dans le management, d'être. D'être à l'écoute, d'entendre les sensibilités des autres, d'absorber et puis parfois d'être capable de prendre et puis d'en faire quelque chose, quoi.
Ouais, je
Donc
comprends.
moi, je peux presque utiliser le terme de violence parce que ça a été vraiment très dur. Je pense que je l'ai pris pour OK, donc là, on ne croit pas en moi. Donc, il va falloir, non pas que je me braque, mais que je prouve qu'on peut avoir confiance en moi et que je vais les emmener et je vais les emmener loin. Et voilà. Et c'est marrant parce que cette personne qui m'a dit ça, quelques années plus tard, c'est marrant, on était. Finalement, on était en très bons termes et aujourd'hui, on est en très bons termes. Et elle m'a dit quelques années plus tard, écoute, je voulais te présenter mes excuses, je me suis trompée dans ce que je t'ai dit il y a quelques années. Et ça, c'était une petite victoire.
Ah ça, bravo, hein, dis donc. Hein. Ah ouais, mais t'es quand même pas mal autodidacte. T'apprends vite les choses.
C'est marrant parce que tu vois, mon associé, je le définis souvent comme autodidacte parce que lui a pas fait d'études, souvent, là, quand on veut se mettre dans des choses, je lui dis, ah, faudrait qu'on fasse ça. Le lendemain, il s'est formé toute la nuit, il a lu des trucs, vu des tutos et il sait le faire. Et je ne sais pas si moi, je dirais autodidacte, je dirais plutôt curieuse et peut-être éternelle insatisfaite dans le sens où j'ai envie d'aller plus loin. J'ai du mal, mais c'est aussi un défaut, hein, et là, je l'assume, j'ai du mal à me contenter. Ça rejoint ce que je t'ai dit en préambule de sortir de ma zone de confort. J'ai du mal à me contenter de ma mission telle qu'elle est. J'ai toujours envie d'aller au bout, parfois avec un côté perfectionniste poussé à l'extrême. Donc voilà, je pense que c'est plutôt ce côté-là que autodidacte. Mais peut-être que ça implique derrière, si j'ai pas ce qu'il faut pour aller chercher, bah, du coup, je vais moi-même chercher les solutions. Ça, oui.
D'accord. Eh ben, dis donc, bravo, hein. C'est quand même pas mal, hein. Là,
Voilà.
on va se faire une petite pause musicale et on
Avec
va
plaisir.
Jane Alright.
Cool.
Made for us. Stir it up tonight. We won't.
Ça a repris.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous revoilà ensemble dans notre émission Une femme, un parcours avec Delphine Cochet, qui est CEO et fondatrice de Ma Bonne Fée. Donc, Delphine, on va continuer ta petite histoire là. Quand tu étais donc dans cette fameuse entreprise, raconte-nous un petit peu la suite des événements dans cette entreprise-là. Raconte-nous.
Eh bien, écoute, donc j'y suis restée 9 ans, avec, dont 5 ans à la direction de l'entreprise. Et alors, évidemment, par mon parcours, en passant par l'EM Lyon, j'avais déjà un peu cette fibre entrepreneuriale. Autour de moi, j'avais des amis, alors IS, hommes entrepreneurs. Donc, ça me trottait quelque part en tête qu'un jour, enfin, que quitte à diriger une boîte avec l'énergie que je mettais dedans, autant que ce soit la mienne. C'était vraiment ce qui me passait en tête. Et puis, j'ai eu deux beaux événements qui sont arrivés, puisque Augustin est arrivé en 2016. Et quand je suis revenue de congé maternité, j'ai annoncé à mon boss que j'allais repartir en congé maternité, puisque Louise est arrivée en 2017. Et donc, évidemment, il était ravi, puisque enfin, il m'a juste dit déjà, mais ravi quand même pour moi. Mais ça, en fait, ça a quand même mis une petite graine dans ma tête qui est OK, donc là, je viens déjà de partir. En plus, j'avais pris quelques mois en plus. Donc, tu vois, je venais de partir 6 mois. Je m'étais toujours dit que si j'avais plusieurs enfants, je ferais des vraies pauses à chaque fois. C'était une envie personnelle. Et donc là, je me suis dit, OK, donc en fait, si je viens 6 mois tous les 6 mois dans une petite boîte, il y a un moment, ça va commencer à être compliqué. Et là, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, si ça se trouve, c'est le bon moment. Et c'est le moment où bah, je ne prépare pas un congé maternité et avec un retour après, je prépare mon départ. Et je me souviendrai très bien, j'ai eu cette épiphanie sur un événement. J'étais en déplacement professionnel. Et j'étais partie avec une amie qui venait de se lancer, elle, à son compte et qui me racontait sa vie. Et je me suis dit, bah, en fait, non. En fait, je vais vraiment préparer le départ. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Je vais partir en congé maternité. Quand je reprendrai pas dans mon ancienne structure, je me lancerai. Et je me suis dit, je vais pas me mettre trop la pression. Je vais faire très bien mon départ. Évidemment, comme je suis très investie, j'ai poussé jusqu'au bout du bout du bout de presque accoucher le jour où j'ai quitté l'entreprise. Et après, je savais que je partais, je finissais mon congé maternité, mais je revenais pas.
D'accord.
Et je m'étais dit, bah, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais alors là, je ne sais pas ce que je veux faire. J'ai aucune idée. Je pense que j'ai pas d'idée. Bah, je sais que je veux rejoindre quelqu'un, un projet, quelqu'un qui aurait une idée. Et moi, mes compétences, c'est bah, d'aider à structurer enfin, une entreprise, puisque mes compétences étaient assez généralistes, aussi bien compta, finance, RH, commercial. C'est ce que j'avais fait dans une structure où tu es 25 et qui gère 10 millions de chiffres d'affaires. Enfin, voilà, tu as cette visibilité un peu globale. Et donc, je m'étais dit, bon, bah, je veux aller dans la tech. Parce que j'entendais partout la tech, la tech. Je me suis dit, bah, c'est là où il y a de la place. Et puis en plus, voilà, j'ai envie de me challenger, d'aller dans un milieu que je ne connais pas. Donc il faut que je trouve quelqu'un qui soit ingénieur, qui ait un super projet, mais qui n'ait pas forcément les compétences pour le développer. Et on fera un super binôme. Donc ça, c'était mon idée. Je l'ai mise de côté pour vraiment vivre mon congé maternité pleinement. Et j'aime bien raconter cette anecdote parce qu'elle est quand même assez incroyable. Je me suis retrouvée bah, le premier jour où j'ai mis ma fille chez la nounou avec son frère. C'était bon, bah voilà, ça y est, j'y suis, qu'est-ce que je fais? Et donc, bah, j'ai juste ouvert mon ordinateur et j'ai tapé dans Google projet startup cherche associé. Parce que, en fait, je ne savais pas par où commencer. Et là, je ne sais plus de fil en aiguille, mais pour faire assez simple, je suis tombée sur un site qui s'appelle Businessful, qui est développé, je crois, par BFM. Et là, presque tout de suite, j'ai vu une petite annonce qu'avait postée celui qui allait devenir mon associé, Lucas, sur Ma Bonne Fée. Et en fait, Ma Bonne Fée, j'en avais entendu parler quelques jours avant parce que j'étais en congé maternité, que je regardais, comme beaucoup de femmes en congé maternité, La Maison des Maternelles, et qu'il avait eu, il avait eu un... Il avait, il était passé dessus. Et que suite à ça, donc pour te dire ce que c'était à l'époque, parce que tu verras ça évoluer, mais à l'époque, Ma Bonne Fée, il venait de lancer un réseau de nurses de nuit, donc c'est-à-dire des professionnels de santé pour accompagner les parents à la sortie de la maternité pour pouvoir récupérer. Donc c'est des auxiliaires de puériculture, un peu comme à l'hôpital. En fait, c'est vraiment le prolongement de la maternité. Comme à l'hôpital, on peut te s'occuper de ton enfant si t'es EHS. Là, l'idée, c'était de faire ça, mais au domicile, pour justement bah, aider les parents, à ré... et, les parents et les femmes à récupérer du mieux possible. Et ça, donc, je l'avais vu. Moi, j'avais deux petits et on a des parents qui sont en région et j'étais quand même très fatiguée. Et donc, on avait eu par mes beaux-parents financé deux nuits de récupération. Et donc, ça avait été très salvateur, surtout que mon mari partait beaucoup en déplacement. Donc, j'avais testé. Et quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, ah, mais génial, j'adore, je vais contacter Lucas. Donc, je lui ai mis un message sur LinkedIn. L'après-midi, on s'est appelé. Le lendemain, on a pris un café. Et la semaine d'après, j'étais à fond dans le projet pour développer la structure. Et on l'a créée officiellement ensemble en juin 2018.
Ah d'accord, c'est pas mal, hein.
Donc, on a été 6 mois ensemble à se tester avant de créer la structure ensemble. Et je me souviendrai toujours, dès le départ, je lui ai dit, écoute, bon, le concept de nurse de nuit, c'est génial, mais moi, ça ne me suffira pas. Enfin, y a autre chose qu'il faut qu'on trouve. Moi, ce qui me porte dans ce projet, c'est comment on peut accompagner les parents à être épanouis et à concilier vie pro et vie perso parce que nos rythmes de vie ont changé et donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens-là? Donc voilà, ça c'est ce qui nous portait.
Ouais, tout à fait. Et comment ça se passe là du coup? Qu'est-ce que vous proposez?
Et donc là, alors là, on va faire on va avancer et on va avancer 4 ans plus tard presque, puisque tout ça, c'était début 2018 et tu vois, on est fin 2021, donc ça va bientôt faire 4 ans. On a fait, comme beaucoup de startups, quelques pivots. Et on a vraiment trouvé notre offre là depuis quelques mois. On a été accéléré, je te le cache pas, par justement toute cette période de pandémie parce qu'elle a mis sur le devant de la scène bah, la conciliation vie pro-vie perso, la parentalité qui était notre cœur historique d'expertise de départ et le bien-être des salariés. Donc aujourd'hui, notre mission, si je prends vraiment de la hauteur avec Ma Bonne Fée, c'est d'aider les entreprises à non seulement à mettre en place des actions en termes d'inclusion et de qualité de vie au travail, mais aussi de les mettre en valeur. Et concrètement, comment on le fait? On a développé une application dans laquelle on retrouve du contenu pour sensibiliser les salariés et les managers sur tous ces sujets, et aussi un programme d'assistance. Et dans le programme d'assistance, on va avoir des prises en charge financées par l'entreprise. Je te donne des exemples très concrets. Ça va être des places en crèche, ça va être des heures de garde financées. Tu es en déplacement professionnel et bah, ton entreprise finance de la garde à domicile parce que tu n'as pas forcément soit de conjoint ou de personnes qui peuvent gérer tes enfants, ou tu as un enfant malade, etc. Et puis, on a tout un pan aussi qu'on a mis en place de soutien individuel, où là, on retrouve des experts, psychologues, coachs, pour vraiment accompagner les salariés dans leurs problématiques de vie.
Ouais.
Encore une fois, notre vision, c'est qu'il est possible de créer un environnement de travail dans lequel on peut toutes et tous s'épanouir, quels que soient nos parcours de vie et nos contraintes personnelles. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous porte au quotidien avec Ma Bonne Fée.
Ah oui, c'est bien, parce que du coup, vous accompagnez toutes ces personnes-là, quoi. Ouais.
Exactement. Alors, on accompagne surtout les entreprises qui aujourd'hui, bah, elles savent que, tu Ouais, il y a une étude de Deloitte là, qui date d'avant la pandémie. Donc, si elle était refaite, je pense que ce serait pire. Mais un salarié sur deux choisit son emploi sur le critère de la conciliation vie pro-vie perso. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a un espèce de retournement sur le marché du travail où, globalement, bah, tu choisis ton entreprise sur ses valeurs, le sens, l'impact, la conciliation vie pro-vie perso. Et donc, les entreprises sont à la fois dans qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je mets dans ma feuille de route. Elles ont aussi des obligations légales à négocier des accords qualité de vie au travail et égalité femmes-hommes. Donc, c'est qu'est-ce que je mets de concret dans ma feuille de route. Et puis, qu'est-ce que je donne comme clé à mes salariés pour leur donner aussi bah, les outils pour être. C'est aussi moi, ce que je dis aussi souvent, c'est responsabiliser les salariés sur le sujet de la conciliation vie pro-vie perso et les managers et
C'est surtout
tous les échelons.
faire confiance aux salariés aussi, hein.
Exactement.
Ouais, parce qu'il y a, y a quand même pas mal de sociétés qui ne souhaitent pas continuer le home office parce qu'ils ont peur que le salarié ne travaille pas, etc. Mais ils ont tort, il y a tellement de moyens de vérifier sur l'ordinateur que.
Ouais, et je, enfin, ça c'est mon humble avis et je n'ai pas de boule de cristal, mais je vois pas comment tu peux rester compétitif aujourd'hui comme entreprise si tu refuses le télétravail en fait. T'as trop d'entreprises en face qui proposent des jobs, ne serait-ce que, enfin, on parle souvent de l'attractivité des startups versus les grands groupes corporate. Bah, il y a une réalité du terrain qui est que quand tu peux travailler de n'importe où, avoir ta vie au vert voilà, faire des allers-retours quelques jours par semaine où bah, ça change tout entre tu taper bah, 1 heure et demie de transport pour aller dans ton
Minimum.
siège à la Défense, voilà. Donc il y a
Minimum.
une
Parce que
réalité qui
maintenant, on est
fait que
passé à 2 heures, hein,
ouais.
pratiquement. Hein. Donc, ça fait 4 heures, 4 heures de 4 heures de perdu par jour. C'est énorme. Énorme. Pendant ces 4 heures-là, tu peux faire du sport, tu peux t'occuper de ta famille,
Ouais.
tu peux faire plein de choses, quoi. Et du coup, la personne se sent beaucoup mieux et beaucoup plus épanouie, que ce soit dans sa vie privée ou aussi dans sa vie pro, quoi.
Et moi, pour revenir sur ce que tu disais, je dirais plus que c'est l'inverse. Il faut faire attention au home office parce qu'il n'y a plus de limite et que c'est un risque, notamment enfin, dans les fameux risques psychosociaux, mais c'est un risque réel. À accompagner en entreprise. Donc là, enfin, clairement, ça a été démontré que tu perds pas en productivité avec le télétravail, et bien au contraire. En revanche, les effets sur le long terme, il faut aussi s'en méfier et aider et donner les outils, et encore une fois, responsabiliser et faire confiance aux salariés pour leur apprendre à mettre des limites, les managers à aider leurs équipes sur ces sujets, voilà.
Oui, tout à fait, tout à fait. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On va faire une petite pause musicale, histoire de boire un petit coup. Et on va écouter Clara Luciani, le reste.
Top.
Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine jouer sur ton piano une mélodie, expire dans un écho, j'ai tout gâché. Je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je te sens au loin, chasser mon souvenir qui palpite encore, qui va bientôt mourir. Est-ce mon pauvre cœur qui a tout inventé? Étais-tu ici? M'as-tu au moins je sais, j'ai tout gâché. Le reste, je te le laisse. 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 Je ne peux pas oublier ton cul et le crin de beauté perdue sous ton pouce et la peau. Le reste, je te le laisse, mais je retiens en laisse le souvenir ému de ton corps nu. Je reste amoureuse d'une idée qui s'éteint, figée à jamais, dans un miroir sans teint, d'où je te regarde, t'en sortir à merveille, épier ton bonheur, me le rend moins cruel. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
À vous tous, nous revoilà à nouveau ensemble à notre émission Une femme, un parcours avec notre chère Delphine Cochet, qui est CIO et fondatrice de Ma Bonne Fée et qui va nous raconter un petit peu les difficultés qu'elle a pu rencontrer pendant ces 4 années d'entrepreneuriat avec Ma Bonne Fée. Alors, raconte-nous.
Alors, j'ai envie de te dire, dans l'entrepreneuriat, les difficultés, c'est quotidien. Donc là, je vais peut-être enlever certaines paillettes, mais j'ai toujours tendance à dire que je suis assez transparente et vraiment, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un espèce de grand 8 où tu montes parfois très haut. Et tu redescends très bas, et tout ça parfois en moins d'une minute. J'exagère à peine. Donc, la première difficulté, c'est clairement, franchement, la gestion des émotions. Là-dessus, j'ai encore beaucoup à apprendre. Je te dirai un petit peu, en tout cas, moi, les solutions, est-ce que j'ai mis en place. Mais la première difficulté, c'est ça, je trouve, c'est d'essayer d'être un peu plus temporisé. Parce que tu vis des grandes victoires et tu vis des choses où, qui te paraissent être des grands échecs, même si après, quand tu relativises ou tu prends les échecs te font souvent avancer, même plus que les victoires d'ailleurs. Voilà, après, moi, s'il y a une. Donc, ça, je te parlerai sur la partie émotion, mais ça va aller aussi avec. Si je dois illustrer une grande difficulté, clairement, on a. Ce premier confinement, que pour te remettre le cadre, donc moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a 4 ans. Mes enfants, ils avaient 4 mois et 20 mois, donc j'avais 2 bébés, et au même moment où je me suis lancée, mon mari a pris un poste. Il travaillait dans un grand groupe, mais il a pris un poste où il partait en déplacement partout dans le monde, minimum une semaine par mois, parfois 2 semaines par mois. Donc, j'avais la gestion des enfants et en même temps, je me suis lancée, comme c'est, avec toute mon énergie et toute mon ambition dans le projet. Et donc, je me suis très peu reposée pendant 2 ans et demi. J'allumais l'ordi dès que les enfants dormaient. Bon, les enfants, on sait ce que c'est, ça dort pas toujours, ou alors, ça peut entrecouper ton sommeil. Enfin bref, je passais ma vie entre les enfants, ce qui n'est pas hyper reposant quand ils sont tout petits, et la boîte où je donnais tout. Et est arrivé le confinement, où là, en plus, on venait de lancer notre offre qui s'adressait aux RH. Donc, si tu veux, le premier confinement, en fait, les RH, ils avaient un sujet qui était assez basique, d'assurer la sécurité de leurs équipes. Donc, tout s'est fermé, donc le dialogue s'est fermé. Donc, on s'est retrouvé à tout remettre à plat avec mon associé sur la boîte, à tout vouloir recréer. En même temps, j'avais mes enfants qui avaient 2 et 3 ans. On s'est retrouvés du jour au lendemain, tous les quatre enfermés ensemble. Et puis, alors, heureusement, on a eu la chance de pouvoir, et franchement, ça, heureusement, on a profité d'une maison de famille avec un jardin et on s'est enfermés tous les quatre dedans. Mais donc, moi, j'avais la boîte à remonter, tout remettre à plat. Mon mari a commencé un audit de sa mission des 2 dernières années. Donc, il était au sommet de son stress, et avec les enfants qui à ce moment-là ont décidé d'arrêter de faire des siestes, de plus trop dormir le soir, enfin d'avoir du mal à s'endormir, parce que en fait c'est la poule ou l'œuf, mais on était dans une espèce d'ambiance bizarre où ils sentaient bien que du jour au lendemain ils étaient plus chez eux, ils voyaient plus personne, avec des parents tendus. Et donc, ça a donné une espèce de période électrique. Alors, mon mari, avec du recul, dit qu'il l'a très bien vécu, moi, très mal. Et je pense que l'expression est un peu forte, mais franchement, je peux dire que j'ai explosé en plein vol à l'été 2020, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Enfin, là-dessus, c'est pas très atypique. Et tu vois, cette explosion, elle s'est pas manifestée par des pleurs ou quoi que ce soit. Elle s'est manifestée physiquement. J'ai commencé à avoir des crises d'angoisse où j'arrivais plus à respirer. J'avais des maux de bide. Je me souviens, j'ai eu des soirées avec des copines, tu vois, des moments de détente où en fait, j'ai dû quitter la soirée tellement je me pliais en deux. Presque, je me disais, je vais aller aux urgences. Et en fait, mon médecin traitant a été très bonne là-dessus. Elle m'a dit non, c'est pas, il y a rien de grave, mais en revanche, il y a un vrai problème, je pense, de est-ce que ça va. Et là, en fait, je lui ai dit je sais pas. Je sais pas, je m'en fiche de tout. En fait, j'ai envie de tout arrêter, je sais pas. Et là, ça a été un déclencheur et elle m'a aidée. Elle était très forte, elle m'a aidée à me rendre compte du fait que non, ça n'allait pas, qu'il allait falloir changer des choses. Et tout ça, ça a eu un impact sur ma bonne fée. Parce que dans la foulée, en septembre, on a changé plein de choses. On a ajouté, et donc pour répondre à qu'est-ce qu'on a mis en place, on a ajouté dans la partie bien-être qu'on avait en tête, on a ajouté des sessions de yoga, des sessions de méditation, de sport. Et en fait, alors c'est toujours un peu compliqué parce que c'est le pro et le perso, mais moi je me suis astreinte pendant 6 mois, parce que là après j'ai un peu lâché, il faudrait que je m'y remette, mais à faire ces sessions, c'est-à-dire qu'on avait mise pour nos clients, à moi aussi me dire il faut que je le fasse parce qu'il faut que je m'en sorte. Alors si je suis très transparente, je suis aussi passée par l'étape indispensable des médicaments, parce que là j'avais atteint tel point de non-retour qu'il fallait que je trouve de l'aide, même si ça a été très difficile à accepter, pas tant pour moi mais plutôt pour mon entourage. Tout ce qui est santé mentale, et on en parle beaucoup aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on va aussi sur le sujet avec ma bonne fée, mais tu acceptes que les gens prennent des médicaments quand ils ont une maladie de cœur. En revanche, tout ce qui est mental, tu dis mais non, tu vas pas prendre ces conneries, etc. Bon, moi, heureusement, je les ai prises. Ça a duré un an. L'arrêt est très long aussi. Donc, en fait, je les ai pris pendant 6 mois et puis ensuite 6 mois d'arrêt. Et en parallèle, je me suis mise en action pour sortir de cette période difficile. J'ai pas baissé les bras avec la boîte, j'ai pas baissé les bras avec les enfants. J'ai continué tant bien que mal, step by step, mais j'ai changé des choses. Donc j'ai arrêté de travailler le soir, j'ai arrêté de travailler le week-end, j'ai arrêté de voilà. J'ai changé mon hygiène de vie. C'est sur le long terme, c'est des choses où il faut se remettre en question régulièrement. Donc là, tu vois. Je suis rentrée dans une autre difficulté du parcours entrepreneurial qui est la levée de fonds. Et là, je sens que ça redevient difficile. Donc là, je teste des nouvelles choses, notamment une partie sophrologie qui m'apporte beaucoup, qui me permet de faire des coupures et de travailler aussi sur, comme elle me dit, j'ai un peu créé une espèce de carapace où je sépare beaucoup la tête du corps. Donc la tête n'écoute plus le corps et il faut recréer la symbiose et c'est pas évident tous les jours.
Ouais. Et elle te fait aussi travailler un petit peu la respiration, j'imagine, pour gérer...
Exactement, pour gérer tous les moments de stress.
C'est ce qu'il faut, hein, pour pouvoir gérer les émotions. La respiration, ça y fait beaucoup pour se détendre.
Exactement. Ouais. Et donc ça, c'est une super solution. Tu vois, ça fait 2 mois que je m'y astreins et je vois les changements. C'est doucement mais sûrement. Il y avait beaucoup de boulot. et ça m'aide clairement dans mon quotidien.
C'est bien parce que ça peut évidemment donner des idées à des mamans et à des papas aussi, hein, parce que c'est pas qu'aux femmes, hein, la sophrologie.
Exactement.
Est accessible. Bah,
je pense d'ailleurs qu'on on parle pas aussi assez, on donne pas assez la chance aux hommes, si je rentre dans ce sujet un peu caricatural, mais d'avoir des fragilités et d'aller trouver les solutions et les ressources alors évidemment je fais un peu une caricature parce qu'il y a des hommes qui sont capables de le faire, mais je trouve que même dans notre société on a c'est encore un peu un tabou.
Oui, c'est vrai.
De manière générale et en particulier chez les hommes. Alors que, et je le sais de manière personnelle, le taux de suicide est beaucoup plus important chez les hommes que chez les femmes.
Voilà, donc c'est peut-être qu'il y aurait des choses à faire, de la sensibilisation sur tout ce qui est yoga, sophrologie et autres pour les hommes et les amis, hein, s'ils ont besoin, de ne pas hésiter à faire ces actions-là. Ouais.
C'est ça.
On va faire une petite pause musicale ensemble et nous allons écouter Mika, Happy Ending.
Alors pour la petite histoire, tu sais que c'est marrant, mais là le choix de Mika, alors chaque chanson que j'ai choisie a vraiment une... To flirty, do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity.
Violet sky, I could be hopeful, I could be purple, I could be anything you like. Gotta be